This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio
Dacha. France Inter, le 18-20.
Le 18-20 aux États-Unis ce soir pour notre rendez-vous hebdomadaire. Trump à la Maison-Blanche et Frédéric Carbone à Washington. À 18h55, ce sera l'édito d'Anthony Bélanger sur la crise démographique de l'Europe du Sud. Tout de suite, une page spéciale consacrée à la Turquie au lendemain du référendum.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Les Turcs étaient appelés hier à se prononcer sur une modification de la Constitution dont le but est de transformer ce régime parlementaire qu'est la Turquie en régime présidentiel, voire hyper présidentiel, pour ne pas dire tout simplement comme certains, régime autoritaire. Le oui l'a emporté de peu, 51,4%, en dépit d'une campagne que le pouvoir a manipulée, que le Conseil de l'Europe, parmi tant d'autres, estime aujourd'hui contraire aux normes élémentaires d'une élection démocratique. On va en parler avec Dorothée Schmidt. Bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. Olivier Bertrand, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au site Les Jours, pour lequel vous suivez depuis longtemps maintenant les événements en Turquie. En studio à Paris également, Selçuk Demir, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat, président de l'association des juristes franco-turcs, proche de l'AKP, on peut le dire comme ça.
Oui.
Voilà, bah c'est dit. Et dans quelques instants, nous serons en direct de Berlin avec Cyril Sauvageau. Tout de suite, l'envoyé spécial de France Inter en direct d'Istanbul. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas et bienvenue à Istanbul. Ce que vous entendez derrière moi, Nicolas, ces chants, ces coups de feu tirés en l'air, eh bien c'est l'ambiance qui régnait la nuit dernière dans la Corne d'Or, à Sujoutlé, là où les partisans du oui s'étaient rassemblés. Alors Nicolas, il y avait, il faut imaginer ces minibus qui passaient, noyés sous des drapeaux rouges, les drapeaux de la nation turque. Il y avait beaucoup de jeunes, des jeunes de banlieue et des familles avec des femmes. Quelques-unes n'étaient pas voilées, d'autres avaient des voiles colorées. Beaucoup aussi étaient entourés dans des draps noirs, juste serrés sous le manteau.
Aujourd'hui, c'était une journée très importante pour nous. Notre nation, comme à l'époque de l'Empire ottoman, a donné une gifle à l'Europe. J'imagine que dans le monde entier, on a bien entendu cette réponse. Nous, on est très heureux de ça, parce que nous, on va être aux côtés de notre président Erdogan jusqu'à la fin.
On l'entend, Claude, les mots sont durs, sont vifs. Erdogan, c'est un nouvel Atatürk.
Mais écoutez, en tout cas, dans le panthéon des Turcs, il occupe aujourd'hui quasiment la même place, si on se fie, en tout cas, à ce qu'on peut voir dans les rues ces jours-ci. Vous n'imaginez pas ces immenses portraits partout, le ciel d'Istanbul noyé sous des bannières gigantesques, des drapeaux avec son portrait, avec à la fois les symboles de la religion et puis ceux de la République et de la justice. Et puis il y a cette chanson que vous entendez derrière moi. Cette chanson, on l'a entendue toute la journée pendant la campagne. Erdogan, c'est son hymne. Erdogan, l'homme venu du peuple qui a gravi les échelons de la politique un par un. L'homme qui a incarné à ses débuts un nouvel espoir, celui d'un régime à la fois conservateur et porteur de gestes d'ouverture, avant de virer vers un régime bien plus autoritaire et répressif, un homme sous le règne duquel aussi l'économie turque a fait un énorme bond.
Et ça, j'imagine, Claude, que c'est important pour comprendre la situation actuelle.
Oui, Nicolas, c'est vrai, hein, parce qu'il faut vraiment avoir conscience qu'entre 2003 et 2011, eh bien, la classe moyenne est passée de 20 à 40% de la population. Les Turcs, parmi les plus pauvres et parmi les plus conservateurs, ont commencé à accéder à de nouveaux standards de vie qui étaient auparavant ceux d'une élite plus urbaine, européanisée, une élite qui était au pouvoir et dont ils se sentaient exclus, politiquement, économiquement et socialement. Alors, sur les hauteurs de la rive asiatique d'Istanbul, je suis allée rencontrer Emin. Emin est imprimeur. Il n'a jamais voté pour un autre parti que l'AKP. Erdogan, dit-il, a changé sa vie.
Quels sont ses points positifs? Il a redonné de la considération au peuple. Il a donné de la valeur à la société et à toute la nation turque. Les gens ont senti qu'ils étaient considérés comme de vrais êtres humains. Et les gens qui souffraient au quotidien des problèmes de la Turquie, que ce soit dans le secteur de la santé, des transports ou le niveau de vie, ont vu leur situation s'améliorer.
Alors, la situation économique qui change, mais aussi pour eux, la place dans la société. Ça, c'est Gulskar, une jeune étudiante en sciences politiques, qui m'en a parlé.
Je vais vous donner un exemple très simple. En Turquie, une très grande majorité de la population est musulmane. et les femmes comme moi, on peut suivre nos études alors qu'on porte un voile. Moi, j'ai commencé à porter le voile lorsque j'étais au lycée. Mais jusqu'au milieu de ma scolarité au lycée, jusqu'en 2010, le voile était toujours interdit dans les établissements scolaires. Et ça, c'était le cas alors que la Constitution disait que tous les citoyens ont la liberté de religion et de conscience. Ça a duré jusqu'à ce que Tayyip Erdoğan arrive et me donne cette liberté. Vous vous rendez compte? Dans ce pays, dans ma patrie à moi, dans le pays où je suis née, sur la terre même où je suis enracinée, à laquelle j'appartiens, je n'avais pas le droit d'exercer ma religion librement.
Et le poids de la religion, Claude, a été déterminant dans ce scrutin?
Oui, évidemment, hein, parce que ceux qui voulaient voter non, par exemple, ont été parfois taxés de mécréants dans certains quotidiens pro-gouvernementaux. Il y a des imams qui leur ont promis l'enfer. Et ces nonistes, en fait, ils sont surtout, pour le camp du oui, associés à l'Occident et à des valeurs qui sont ici jugées comme perverties. La démocratie à l'occidentale, eh bien, ces classes la voient souvent comme une tromperie, puisqu'elles ont le sentiment, en fait, d'avoir été marginalisées pendant des années par cette élite occidentale qui était aux commandes. Elles rejettent donc ce qui incarne l'Occident et donc en premier lieu l'Union européenne. Ça, on en a eu une illustration l'autre jour de ce rejet en se rendant à un meeting du président Erdoğan. C'était à Sarıyer, une banlieue populaire en bord de mer. Il y avait plusieurs milliers de personnes, toujours sous cette mer de drapeaux rouges, des portraits de Erdoğan à nouveau partout, comme je vous le disais, et dans la foule, deux femmes et un homme qui ont voulu nous parler d'Europe, deux femmes voilées, l'une de façon stricte, l'autre de façon bien plus fantaisie, mais deux femmes très en colère.
En fait, j'ai pas envie d'entrer dans l'Union européenne. Vous comprenez? J'en ai vraiment pas envie. S'ils veulent pas de nous, nous on veut pas d'eux non plus. J'en ai rien à faire.
D'ailleurs, ces pays, ils quittent aussi un par un l'Union européenne. C'est le début de la fin pour l'Europe. Heureusement qu'ils n'ont pas voulu nous intégrer. On n'en veut pas.
Et puis, on est déjà sur les standards européens.
On est même mieux que bon nombre de pays européens en ce qui concerne la santé, l'éducation. Nos routes, nos ponts, nos tunnels, on les a déjà construits. C'est pour ça qu'on continue à soutenir Erdoğan.
C'est l'Europe qui a besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin de l'Europe.
Et c'est donc la rupture, Claude?
En tout cas, c'est une division profonde, hein, l'Europe. Et pour en parler, je suis allée voir Ali Bayramoğlu. C'est un politologue, un éditorialiste. Ali Bayramoğlu, c'est surtout un libéral qui, à contre-courant, a cru au tout début que Recep Tayyip Erdoğan pouvait incarner un nouveau souffle pour la Turquie. Il en est revenu.
Ce qui me gêne le plus, c'est que M. Erdoğan, en tant que populiste, définit un peuple à partir des gens dociles. Des gens qui se soumettent à son autorité. Il exclut tout le reste en dehors du peuple. Et cette polarisation, ça me fait peur. Bon, c'est un vieux pays, c'est une ancienne tradition politique. Il s'agit de l'Empire ottoman, etc. Mais quand même, si ça continue comme ça, cette polarisation, si ça marche, si Tayyip Erdoğan joue encore 10 ans sur ça, ça veut dire que le monde conservateur ouvre une guerre avec à partir de cette langage polarisation. On n'arrivera jamais à faire une synthèse entre les séculaires et les musulmans. Bon, on vit ensemble, il y a une coexistence, on sait, mais on veut plus. On veut qu'une sorte d'institution couvre les deux. Mais Tayyip Erdoğan, il a préféré une politique identitaire. La polarisation signifie cette politique identitaire. Ça, j'aime pas du tout. Ça ne fait pas peur. Ça mérite.
Et Nicolas, ce rire que vous entendez, eh bien, sachez qu'il résonne de façon assez triste aujourd'hui, car ces mots, Ali Bayramoğlu les a prononcés samedi. Hier, dimanche, il est allé voter. À la sortie du bureau de vote, il s'est fait très violemment agresser par des partisans de l'AKP, comme une illustration funeste de cette polarisation de la société qu'il redoute autant.
Claude Guibal, en direct d'Istanbul, envoyé spécial de France Inter. Alors, on va ouvrir le débat ici en studio et avec Olivier Bertrand qui est avec nous par téléphone. Dorothée Schmidt, qu'est-ce qui s'est passé hier en Turquie? C'est un changement de monde?
Non, je crois que c'est la continuation d'une transformation progressive du régime turc avec une consolidation d'un régime qui est aujourd'hui très personnalisé où effectivement Tayyip Erdoğan souhaite exercer le pouvoir sans contrepartie et sans le partager.
L'aboutissement d'une dynamique,
oui,
c'est ça ?
Oui, et je pense qu'évidemment, la tentative de coup d'État arrêtée de l'année dernière a accéléré cette volonté de tout verrouiller de la part du président turc.
Même question pour vous, Selçuk Demir. Je rappelle que vous êtes avocat proche de l'AKP, président de l'Association des juristes franco-turcs. Qu'est-ce qui s'est passé hier dans votre pays ?
D'abord, c'est une victoire de la participation. On a un taux de participation qui avoisine les 90%, et donc une victoire de la démocratie. On a posé une question au peuple turc, qui était celle de savoir s'il voulait de la nouvelle réforme constitutionnelle qui instaure un régime présidentiel. Le peuple turc s'est massivement déplacé et a voté oui. Donc la première chose à faire, me semble-t-il, en tant qu'analyste, c'est d'abord de respecter les choix du peuple turc. Ensuite, le peuple turc, il n'est pas plus bête qu'un autre. Il a évidemment pesé les tenants et les aboutissants de cette réforme constitutionnelle. Il s'est renseigné, il en a débattu. On a eu des discussions qui ont eu lieu pendant des semaines et des semaines. Et au final, le peuple turc s'est plutôt porté pour le oui. Donc on verra bien ce qui se passera. Mais il faut, à mon sens, que cette réforme constitutionnelle, qui est seulement le passage d'un système parlementaire à un système présidentiel, ne soit pas non plus exagéré. On ne concentre pas tous les pouvoirs dans les mains du président de la République. On a un exécutif fort, certes, mais on a un pouvoir législatif qui reste aux mains de l'Assemblée nationale. Les choses sont beaucoup plus équilibrées que ce qu'on en dit. Il faut, comme très souvent concernant la Turquie, ne pas tomber dans le préjugé ou dans l'a priori, mais bien appréhender la complexité de ce pays.
Et que pensez-vous des observateurs critiques internationaux qui disent que ce référendum, cette élection, ne sont pas aux normes internationales ?
Vous savez,
c'est-à-dire aux normes élémentaires de la démocratie, que c'est un scrutin insincère de ce fait.
La Turquie est un pays qui a une culture démocratique depuis maintenant très très longtemps. C'est pas la première élection référendaire qu'on a en Turquie. On a également un système dans lequel les éventuelles contestations vont être appréhendées par l'organe administratif, puis par la Cour constitutionnelle de Turquie qui sera compétente en la matière. Je ne suis absolument pas inquiet. Des contestations, il y en a assez souvent, mais assez souvent, depuis maintenant beaucoup d'années, ces contestations sont rejetées. Je note quand même que ça fait 12 élections de suite que le parti au pouvoir gagne aujourd'hui. C'est la 12e élection de suite dans laquelle on a un score entre 40 et 50%, ce qui montre bien qu'il y a une stabilité et une continuité dans le choix du peuple turc qui doit être salué, à mon sens.
Est-ce qu'il a vraiment le choix ?
Mais écoutez, on disait qu'il n'avait pas le choix en 2002, pourtant il a voté massivement pour la KP, qu'il n'avait pas en 2007.
Je vous pose la question. C'était exactement le cas. Référendum.
Enfin, il faut arrêter, à mon sens, de prendre les Turcs pour ce qu'ils ne sont pas. Les Turcs savent pour qui ils votent, savent peser le pour et le contre dans le cadre de cette réforme constitutionnelle. On a eu des débats sur cette réforme constitutionnelle, qui est une réforme complexe. Ça a été très caricaturisé en France, notamment dans les médias, dans une certaine partie aussi des spécialistes de la Turquie. Mais voilà, le peuple turc s'est prononcé. Et d'ailleurs, la faible différence entre le oui et le non montre bien qu'il y a eu débat et montre bien qu'il y a eu une hésitation. Ça montre la vitalité, justement, de la société civile turque.
Olivier Bertrand, votre lecture de ce qui s'est passé hier en Turquie ?
Extrêmement différent de votre invité que je salue, mais je pense avant tout, moi, que le scrutin d'hier soir, le résultat du référendum, est un soufflet pour le président Erdogan. Un soufflet parce que cette société, l'équilibre, le quasi-équilibre entre le non et le oui ne traduit absolument pas un débat équitable, mais il traduit à mon avis la force de résistance du non dans ce pays, puisque c'est un référendum qui s'est fait dans des conditions apocalyptiques, avec une société totalement désinformée, une véritable propagande de la télévision contrôlée aujourd'hui par le pouvoir, et puis une campagne du non qui a été entravée, et des opposants qui sont sous pression en permanence. Donc la participation, elle est forte, mais elle est exactement comme elle était en fait aux dernières législatives en 2015, de 85%. Et puis surtout, le parti du président, contrairement à ce qui vient d'être dit, recule. Il recule de 10 points. C'est-à-dire qu'en novembre 2015, il faisait 60% avec son allié du MHP, avec qui il vient de présenter ce référendum. Et aujourd'hui, ils sont à peine à 50%, malgré tous les moyens de l'AKP et de l'État qui ont été engagés.
Est-ce que, Olivier Bertrand, d'après vous, la Turquie a changé de régime avec ce référendum, ou en tout cas s'apprête à le faire, une fois que la réforme constitutionnelle aura été mise en place ? Olivier Bertrand, vous êtes là ?
J'entends extrêmement mal, Nicolas.
Ah, vous entendez mal. Alors, on va essayer de régler ça. Je pose la question à Dorothée Schmidt en attendant. Est-ce qu'il y a un changement de nature dans le régime turc aujourd'hui ? On est passé de quelque chose de parlementaire à autre chose d'autoritaire.
Je pense que les institutions sont maintenant taillées à la mesure du pouvoir tel que Tayyip Erdogan le souhaitait. Alors effectivement, c'est très bien de souligner qu'il a gagné 12 élections de suite. Est-ce que ça lui donne pour autant un blanc-seing pour mettre ses opposants en prison? Ça, c'est quand même une question qu'on est fondé à poser. Il y a un problème de démocratie sociale manifestement aujourd'hui en Turquie. Il n'y a pas d'alternative politique. Moi, je trouve que c'est pas tellement un signe de bonne santé quand le même parti remporte systématiquement les élections pendant si longtemps sans avoir d'opposition qui réussit à se structurer. Je crois que la définition de la démocratie, pour moi, c'est l'alternance. Mmh.
Olivier Bertrand, je vous posais la question, j'espère que vous m'entendez mieux, de la, oui, nature, du, la nature du régime turc aujourd'hui. Comment dire, régime parlementaire hier, régime autoritaire aujourd'hui?
Oui, je pense que régime d'abord ultra personnalisé, ça c'est certain, ultra concentré dans les mains du président Erdogan, puisque contrairement à ce que disait tout à l'heure votre invité, le Parlement aura en fait quasiment plus de pouvoir, plus aucun pouvoir, tout le pouvoir exécutif, mais également en partie législatif, reviendra au président. Et puis demain, en fonction du président qui disposera de cette constitution, eh bien effectivement, la possibilité d'un régime extrêmement autoritaire et puis de que plus jamais ce pouvoir ne soit rendu ni au peuple ni au Parlement. Je crois que c'est là qu'on est la Turquie au lendemain de ce référendum.
Et dans quel état sont les contre-pouvoirs en Turquie aujourd'hui dont on sait qu'ils ont été extrêmement secoués, voire emprisonnés oui. Après le coup d'État, la tentative de coup d'État?
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est le fait qu'aujourd'hui il existe un camp du non, que la Turquie est fracturée en deux, ce qui peut être terrible pour elle, mais que par contre l'espoir qui avait complètement disparu depuis l'automne 2015 peut-être revenir avec ce résultat. À une condition, c'est que les gens qui aujourd'hui s'opposent à la progression de la dictature en Turquie arrivent à s'entendre entre eux et à dépasser ce qui les oppose, ce qui les divise, les haines qui les divisent et qui sont terribles.
Mmh. Selçuk Demir, sur la nature du régime en Turquie aujourd'hui, je rappelle que vous êtes avocat.
Moi, ce que je constate, c'est que 3 des 4 premiers quotidiens en Turquie sont des quotidiens d'opposition qui tirent au total à plus d'1 million d'exemplaires, qu'on a des chaînes publiques et privées qui ont largement relayé les arguments du non. On a d'ailleurs des chaînes privées qui se sont violemment opposées aux partisans du oui et qui depuis hier soir d'ailleurs contestent les résultats des élections. La société civile turque, elle est beaucoup plus vive que ce qu'on en dit.
Il faut arrêter. Il y en a une partie qui est en prison quand même.
Non, il n'y a pas une partie de la société civile turque qui est en prison. Il y a un certain nombre de soutiens.
Que vous voulez que je vous dise, enfin.
Il y a un certain nombre de soutiens. Donc de ce groupes sont.
Non mais attendez, juste. Il n'y a
PKK,
pas de journalistes.
Je peux finir.
Non, je voudrais vous poser
proche
juste
PKK,
une question parce que.
Non,
je vous en ai posé une. Il n'y a pas de journalistes. Il n'y a pas de journalistes en prison en Turquie.
Il y a des journalistes qui sont proches.
Qu'on soit au moins d'accord sur nos désaccords. Sinon, on met de la musique et on passe à autre chose.
Il y a des journalistes proches de la mouvance terroriste telle que le PKK qui en effet sont en prison. Pourquoi? Parce que ces groupes terroristes ont eu des moyens d'expression dans les journaux.
Donc c'est normal de mettre des journalistes en prison.
Qui soutiennent les groupes terroristes, qui font l'apologie du terrorisme. Oui monsieur, c'est normal pour moi. Le droit à la vie, le droit à la sûreté, c'est plus important.
Olivier Bertrand aussi.
Que le droit à la liberté d'expression.
Bah oui d'accord, on comprend. Olivier Bertrand aussi a connu les prisons en Turquie juste pour une semaine. Olivier, vous faisiez l'apologie du terrorisme vous aussi?
En fait, ce que je faisais, c'est ce que faisaient beaucoup de mes collègues turcs qui sont aujourd'hui en prison, c'est-à-dire que je rencontrais des sources, et des sources qui étaient effectivement pas uniquement AKP. Et aujourd'hui, on peut être incarcéré quand on est journaliste en Turquie, tout simplement, parce qu'on a rencontré des militants kurdes, ou des militants fétulistes, de la confrérie de Fethullah Gülen. Comme ils ont été déclarés terroristes par le régime, le fait de les rencontrer en tant que journaliste, faites-vous des complices de terrorisme. C'est ça la démocratie dont parle votre invité.
Dorothée Schmidt voulait réagir, dire un mot sur notamment ce que soulignait tout à l'heure Olivier Bertrand, à savoir peut-être que le non est une opportunité, en tout cas pour ce camp-là, pour se structurer en opposition.
Alors, ce qui est très intéressant, ce que reflète, je pense, cette conversation, c'est qu'en fait,
Elle est impossible, cette conversation.
Non, c'est qu'on sous-estime systématiquement le camp pro-AKP, effectivement, en Turquie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup glosé avant l'élection en disant que le oui et le non étaient au coude à coude. Il y a un certain nombre d'analystes qui nous ont dit qu'ils pensaient que le non pouvait l'emporter. En ce qui me concerne, j'ai toujours été persuadée que Tayyip Erdogan remporterait son référendum. Ce qu'on a du mal à comprendre ici, c'est que le camp de l'AKP est beaucoup plus uni et que le camp du non est vraiment très fracturé. Or aujourd'hui, on avait la possibilité d'un vote qui était oui ou non et qui finalement était oui ou non contre Tayyip Erdogan. Mais Une fois que Tayyip Erdogan récupère toutes les commandes du pouvoir, il peut continuer à diviser la société turque en opposant les gens sur la question kurde, la question du sécularisme, la question de liberté publique, la réislamisation. Tout ceci sont des sujets de clivage qui fragmentent la société turque en micro-sociétés. Et le camp des opposants est beaucoup plus fragmenté que le camp de ceux qui soutiennent Tayyip Erdogan. C'est pour ça que je suis peut-être un petit peu moins optimiste qu'Olivier Bertrand sur le fait qu'une alternance, puisque personnellement c'est ce que je souhaiterais aussi en Turquie, c'est qu'on n'est pas sans arrêt, c'est qu'on n'est pas Erdogan forever jusqu'en 2029, ce qui nous attend pour le moment apparemment, en tout cas ce que le président annonce. Ça me semble anormal.
Olivier Bertrand, sur cet aspect.
Oui, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Dorothée Schmitt hein, sur la fragmentation du camp du non. Je pense que le gros enjeu aujourd'hui est là, c'est je pense que les opposants à Tayyip Erdogan doivent avoir ce plus petit dénominateur commun de ne plus participer à la polarisation de la société. C'est l'obsession du président et c'est à mon avis extrêmement efficace depuis au moins Gezi, depuis 4 ans. Aujourd'hui, ceux qui veulent retrouver la démocratie doivent cesser de participer à sa polarisation de la société pour essayer de s'unir et de proposer une voie qui permette de retrouver la démocratie.
En tout cas, c'est une dernière minute de l'AFP. Le président Erdogan somme les observateurs européens de rester à leur place, rester à leur place. Et la citation des paroles exactes donc du président Erdogan. Quel est le d'après vous, Selçuk Demir, le cœur de cette réforme constitutionnelle?
Alors, le cœur de cette réforme, c'est de passer d'un régime parlementaire dans lequel l'Assemblée nationale, qui est maîtrisée par les partis, à l'ensemble du pouvoir législatif et exécutif, à un système présidentiel dans lequel le pouvoir exécutif est donné au président de la République. Et cela ressemble, les discussions qui existent en Turquie ressemblent par exemple à celles qui ont eu lieu en France avant 1958, du temps du référendum proposé par le général de Gaulle dans le cadre de la constitution de la Ve République. On traitait à ce moment-là le général de Gaulle de dictateur, on disait qu'il voulait s'accaparer tous les pouvoirs. La comparaison est absolument faisable. Dans le cadre de cette réforme constitutionnelle, l'idée c'est de permettre la stabilité du pouvoir exécutif. Pourquoi la stabilité du pouvoir exécutif? Parce que la Turquie est en proie à une menace terroriste qui est très importante, on l'a dit. Parce que la Turquie fait partie d'une région dans laquelle les conflits sont légion. On a quand même une frontière avec la Syrie de plus de 900 km. Et parce que la Turquie a besoin d'un pouvoir exécutif qui puisse être stable. Mmh. C'est ça l'idée de cette réforme constitutionnelle.
Dorothée Schmitt.
J'ai un petit problème avec cette idée de stabilité. Je ne crois pas du tout que ça rende la Turquie stable de mettre tous les pouvoirs aux mains d'un leader qui soit aussi capricieux que Tayyip Erdogan. Excusez-moi de prononcer ce mot, mais je constate qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il a changé d'avis très rapidement. Je m'intéresse par exemple à la politique étrangère turque et je constate que sur la crise syrienne, la Turquie est encore en train de changer d'avis pour la troisième fois en moins d'un an. Ensuite, stabilité, le coup d'État raté de l'année dernière, on nous explique qu'il a été organisé par une confrérie qui était les alliés de Tayyip Erdogan. Donc il est parfaitement responsable du fait qu'il a, nourri en son sein et au sein de l'État sa propre opposition. Et aujourd'hui, la façon dont ont été menées les purges dans l'après-coup d'État, sont également en train de radicaliser une nouvelle forme d'opposition en Turquie. Et il est indispensable de revenir à une politique plus inclusive, mais je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui possible. Dernier point sur l'aspect de l'inclusion et sur la division, les rapports avec l'Union européenne, à mon avis, sont impacifiables à l'heure actuelle.
On va y venir juste après un saut à Berlin où nous attend Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Allemagne. En Allemagne, où vit la plus grande communauté turque d'Europe, Cyril, et une large majorité des électeurs ont voté oui au référendum hier.
63% de oui, hein, près de 2/3 des suffrages. La victoire est très nette, même si la participation en Allemagne est restée assez faible, hein, autour de 50%. C'est la preuve en tout cas que les pro-Erdogan ont su davantage se mobiliser. Ça confirme aussi que la communauté turque d'Allemagne est plutôt plus conservatrice que la moyenne. Aux dernières élections, déjà l'AKP avait fait ici de très bons scores, mais c'est d'autant plus frappant cette fois-ci, encore plus quand on regarde en détail les résultats des grandes villes. 75% de oui à Dortmund, 70% à Düsseldorf, 66 à Stuttgart. La preuve en tout cas que les électeurs se sont laissés séduire davantage par la rhétorique de Tayyip Erdogan plutôt que par les mises en garde de l'Europe et de l'Allemagne face au risque d'une dérive autoritaire.
Et puis il faut rappeler, Cyril, que la campagne a été particulièrement tendue, hein, chez vous en Allemagne.
Oui, alors l'enjeu était considérable pour Erdogan, avec 1,5 million d'électeurs potentiels. Ici, on se souvient que plusieurs meetings électoraux ont été annulés, interdits. Il y a eu des échanges très violents entre le régime d'Ankara et les autorités allemandes, accusées de nazisme à plusieurs reprises. En disant oui, certains électeurs ont probablement aussi voulu dire non à l'Allemagne et à Angela Merkel, ce qui suscite beaucoup de commentaires ici. Je n'en citerai qu'un, celui d'un journaliste du Spiegel, Asnain Kassim. On ne peut pas à la fois approuver un régime autoritaire, favorable à la peine de mort et qui enferme les opposants, et en même temps se plaindre de ne pas être accepté en Allemagne. Ça veut dire que l'intégration a échoué, mais ce n'est pas seulement la faute des Allemands. Fin de citation, l'auteur qui dit avoir été inondé de messages d'insultes pour avoir pris position pour le non au référendum.
Un mot, Cyril, des réactions officielles à Berlin. Quelle attitude faut-il adopter vis-à-vis d'Ankara? Là aussi, les avis sont partagés.
Alors, première réaction, celle d'Angela Merkel. Dans un communiqué avec son ministre des Affaires étrangères, elle appelle le président turc à mener un dialogue constructif avec toutes les composantes de la société turque. Réaction plutôt prudente et mesurée. Donc, à la CDU, la députée européenne Elmar Brok met en garde contre une rupture totale avec Ankara. Certes, les négociations avec l'Union européenne seront encore plus difficile, mais le processus d'adhésion n'est pas mort, dit-elle. Seul un rétablissement de la peine de mort pourrait y mettre fin. Du côté du SPD, Martin Schulz, candidat à la chancellerie, estime que le résultat du référendum montre que Erdogan n'est pas la Turquie à lui seul. L'opposition de gauche, enfin, appelle l'Allemagne à soutenir davantage la société civile turque. Le parti de gauche, Die Linke, va même plus loin. Il estime que Berlin doit frapper fort et mettre fin à sa coopération militaire avec la Turquie en retirant ses soldats stationnés près de la frontière syrienne.
Cyril Sauvageau à Berlin, ça va se compliquer les relations entre la Turquie et l'Union européenne. Non, Selçuk Demir, je vous pose la question parce que vous devez partir rapidement de ce studio pour en rejoindre un autre.
Écoutez, ce qui a favorisé notamment le vote du oui en Allemagne, c'est l'attitude irresponsable de certains dirigeants européens qui ont fait de cette question du référendum en Turquie un sujet d'électoralisme et de populisme, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour la Turquie et pour certains nombres de dirigeants européens. Quand on a des députés allemands qui ont organisé des meetings pour le non au référendum en Turquie, ben on peut comprendre que les électeurs turcs européens, les électeurs turcs d'Allemagne, puissent être mécontents. Parce que quand on invite la Turquie à ne pas importer les conflits sur son sol, mais qu'en même temps on milite pour le non au référendum, enfin on voit là qu'il y a un double discours qui est évidemment répréhensible et qui a favorisé les partisans du oui.
Selçuk Demir, je vous remercie. Vous êtes avocat, vous devez filer, quitter le studio de France Inter. Merci d'y être passé. Dorothée Schmidt, encore une déclaration à l'instant de Recep Tayyip Erdogan. La Turquie organisera, dit-il, un référendum sur la suspension des négociations d'adhésion à l'Union européenne si nécessaire.
Oui, voilà.
Commentaire en direct.
Toute une série de référendums qui sont annoncés. Je voulais juste faire un tout petit point sur la diaspora, parce qu'effectivement, le vote des Turcs en diaspora a été plus élevé en faveur du oui qu'en Turquie même. Mais il ne faut pas oublier qu'on a seulement environ la moitié des Turcs de diaspora qui ont voté. C'est-à-dire qu'il y a eu un biais très pro-Erdogan. Alors, la question, c'est pourquoi Erdogan a réussi à mobiliser beaucoup plus son électorat? Effectivement, parce que il a été très présent, il a beaucoup fait appel à ces Turcs de l'étranger, et parce qu'il y a eu aussi des règlements de compte au sein des communautés des originaires de Turquie dans les différents pays, et des phénomènes aussi d'intimidation, je crois qu'il faut le dire.
Olivier Bertrand, la voie diplomatique aujourd'hui entre l'Union européenne et la Turquie est extrêmement étroite. Je ne sais même pas comment formuler les choses. Quel type de relation imaginer aujourd'hui avec la Turquie, qu'il ne faut pas laisser tomber, évidemment. C'est un grand pays qu'il ne faut pas laisser seul, j'imagine. Mais je ne vois pas, une fois qu'on a dit ça, la forme diplomatique que pourraient prendre les choses.
C'est très compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, essayer de s'opposer à Recep Tayyip Erdogan ou essayer d'opposer des barrières à un président qui prend tous les pouvoirs est interprété régulièrement là-bas comme une opposition à la Turquie, au peuple turc. Et donc il y a quelque chose de terrible qui fait que, à mesure qu'on va essayer de combattre à distance les dérives du président Erdogan, le peuple turc le comprend comme un rejet de la Turquie aussi, parce que le président turc sait très bien jouer de ça, c'est-à-dire en permanence dire à son peuple que les Européens sont racistes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout aujourd'hui un jeu de dupes, c'est-à-dire que personne, ni du côté de l'Europe, ni du côté de la Turquie, ne veut prendre l'initiative de dire que le processus d'adhésion est mort pour au moins pour un bon moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas seulement que c'est enlisé ou paralysé, c'est que plus personne n'y croit. En Turquie, absolument plus personne ne croit, et à mon avis, ne veut de l'adhésion à l'Europe, tout simplement parce que le peuple turc a été extrêmement humilié de l'attitude européenne, qui a faim de négocier, qui a commencé à négocier, pour ensuite expliquer que la Turquie n'avait pas vocation à entrer dans l'Europe.
Dorothée Schmidt.
Alors moi, je pense que la méthode est la suivante. En réalité, la Turquie peut changer d'avis, tout dépend de Tayyip Erdogan. On a bien vu les rapports avec la Russie qui sont passés d'une brouille totale au grand amour. Je crois que le plus urgent pour les Européens, c'est de retrouver une position commune, et c'est d'engager Erdogan dans un club qui soit cohérent et qui le rassure d'une certaine manière, mais qui soit aussi capable de s'opposer à lui. Je crois que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de retrouver une position franco-allemande qui soit cohérente et qui soit ferme vis-à-vis de la Turquie. C'est d'arriver à discuter à 27. Je ne parle pas des Britanniques qui sont en train de jouer un rôle particulièrement savonneux dans cette affaire, mais c'est d'arriver à rediscuter vraiment entre Européens de ce qu'on souhaite faire avec la Turquie, d'engager la Turquie pour pouvoir, d'une certaine manière, contrôler également Tayyip Erdogan.
Ça va être de plus en plus difficile avec ce qu'on voit et après ce référendum. Merci beaucoup Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI. Merci Olivier Bertrand. Vous étiez avec nous en ligne. Vous êtes journaliste au site Les Jours et vous suivez donc la Turquie. Merci à Claude Guibal en direct d'Istanbul et à Cyril Sauvageau qui était avec nous en direct de Berlin. À suivre, Washington. Sur Inter, c'était The Undertones.
Get down. The 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Trump à la Maison Blanche, c'est notre rendez-vous du lundi avec les États-Unis et avec Frédéric Carbone. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes en direct de Washington, Frédéric, on l'évoquait déjà lundi dernier, mais là les choses se confirment, virage à 180 degrés de Donald Trump sur la politique étrangère.
Ah, qu'est-ce qu'on est loin effectivement de cette profession de foi. Je ne suis pas le président du monde, énoncé fin février lors de son discours devant le Congrès. Russie, Syrie, Corée du Nord, Afghanistan, tous les fronts sont ouverts en même temps. Et l'image de ce lundi, c'est bien le vice-président Mike Pence avec son blouson d'aviateur dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Alors, à la différence des néoconservateurs période George Bush, on n'a pas de discours de volonté d'exporter la démocratie américaine, aucune référence aux droits de l'homme. En ce moment, je n'ai pas vu par exemple la moindre réaction des États-Unis au référendum en Turquie, dont vous avez longuement parlé. Mais voilà bien une politique étrangère interventionniste, républicaine, assez classique. Donald Trump s'est-il donc rallié à ce genre de thèse ? Question posée au sénateur McCain.
Je l'espère. Je sais qu'il a bâti une équipe solide sur la sécurité nationale et il écoute ses conseillers. Depuis 8 ans, nous n'avions pas eu à répondre des crimes de guerre parmi les plus horribles de l'histoire. Au moins, il a fait quelque chose et maintenant j'espère qu'il y aura une vraie stratégie mise en place.
On sent dans les propos d'un des républicains les plus sceptiques vis-à-vis de Donald Trump, à la fois de l'approbation, mais aussi de façon sous-entendue le fait que les vrais décideurs, ce sont le ministre de la Défense, Jim Mattis, et le patron du Conseil de Sécurité Nationale, le général McMaster, deux militaires, qui réfléchissent depuis longtemps à ces enjeux. Mais si le président américain est sous influence, c'est de façon totalement consentante. Pendant cette fameuse interview sur Fox Business, vous en avez entendu parler, Nicolas, où il raconte avec délectation comment il a informé le président chinois de la frappe en Syrie autour d'un gâteau au chocolat. Eh bien voilà de quelle manière il décrit sa fascination pour l'arsenal militaire américain.
C'est tellement incroyable, c'est brillant, du génie. Notre technologie et nos équipements sont 5 fois meilleurs que n'importe quel autre. Dans ce domaine, personne ne peut rivaliser avec nous. Maintenant, on va commencer à en prendre soin parce que les militaires ont été très maltraités par la précédente administration et aussi lors de la guerre en Irak, qui a été un autre désastre.
Bon, ça c'est pour la ligne « je ne suis pas Obama », ça va être le message permanent pendant 4 ans. Ce goût pour la chose militaire, il inquiète ceux qui n'ont pas voté pour Donald Trump. Il y avait ainsi ce week-end une manifestation sur la question de la transparence fiscale, mais évidemment, dans le contexte de la tension en Corée du Nord, les préoccupations étaient beaucoup plus larges. Sam, par exemple, est venu avec sa pancarte « rien de tel qu'une guerre quand on a besoin de faire diversion ».
Je pense qu'il a tellement de problèmes qu'il cherche n'importe quoi pour détourner l'attention. Ne l'oubliez pas, depuis Ronald Reagan, il y a cette idée qu'une bonne petite guerre peut faire du président des États-Unis un héros. Et Donald Trump veut être un héros. Donc un de ses conseillers a dû lui dire qu'il avait besoin d'apparaître comme un dur. Et la réalité pour lui, c'est ce qu'il croit à un moment donné. Je ne suis pas sûr qu'il soit sain d'esprit. En fait, il se conduit comme un enfant de 13 ans.
Et du coup, Frédéric, les priorités de Trump en politique intérieure, cette fois, passent au second plan ?
Absolument. Et sur les questions économiques, on est, même comme en politique étrangère, dans le registre du grand virage. L'exemple le plus frappant, c'est que la Chine n'est plus accusée de manipuler sa monnaie pour fausser le jeu commercial. Il faut bien que Pékin donne un coup de main dans la crise nord-coréenne. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, sur toutes ces questions, la personne la plus influente, c'est le patron du Conseil économique, Gary Cohn, ancien dirigeant de Goldman Sachs, et non plus le gardien du temple populiste et nationaliste Steve Bannon. La réalité aurait ainsi rattrapé Donald Trump et ce n'est pas plus mal, explique Stephen Moore, qui était un de ses conseillers pendant la campagne.
Parfois, les circonstances changent et vous devez changer votre opinion. Je veux qu'il soit présidentiel, qu'il s'adapte aux circonstances. Il faut un équilibre, mais il ne faut pas qu'il abandonne toutes les promesses de campagne. Il a le noyau dur, des baisses d'impôts, la réforme de la santé, le commerce avec la Chine. Et ça, il ne faut pas qu'il y touche.
Alors c'est justement là qu'il risque d'y avoir un problème, parce que pour les baisses d'impôts promises, il faut la réforme de la santé qui dégagera des économies. Donc Donald Trump a déjà prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à cette réforme fiscale avant l'été, comme il l'avait pourtant promis.
Toujours en politique intérieure, Frédéric, il y a demain une élection test à regarder de près. Pour quelle raison ?
Eh bien parce que c'est le premier vrai test depuis le 8 novembre et que cela se passe justement sur les terres du ministre chargé de la très compliquée réforme de la santé en Géorgie, fief traditionnellement républicain, mais que les démocrates espèrent conquérir lors de cette élection à la Chambre des représentants. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont mobilisé les vedettes, ce qui n'avait par parenthèse pas forcément marché pendant la présidentielle. Voici quand même l'appel de l'acteur Samuel Jackson.
Stop Stoppez Donald Trump, un homme qui encourage les discriminations religieuses et le sexisme. Souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois que les gens sont restés à la maison. On s'est retrouvés avec Trump. Nous devons manifester notre esprit de vengeance et de colère face à une administration en allant voter.
Oui. Et on regardera ça de d'autant plus près, Nicolas, que le candidat démocrate est un novice, un jeune trentenaire, et s'il gagne, il deviendrait l'emblème d'une nouvelle génération, l'équivalent de cette vague Tea Party des républicains après l'élection de Barack Obama. C'est pour éviter le risque de contagion que Donald Trump se mêle sur Twitter de cette élection très locale, en dénonçant un candidat super libéral, pro-immigration et laxiste face aux criminels.
Allez, on finit avec un point agence de voyage. Trump est sédentaire.
Oui, beaucoup plus que ses prédécesseurs, en tout cas, avec un principe, America first et Mar-a-Lago second. Contrairement à Obama et Bush, il n'a pas effectué un déplacement à l'étranger dans ses trois premiers mois de présidence, et il a aussi beaucoup moins sillonné les États-Unis, de rares déplacements uniquement dans des États où il avait emporté en novembre. En revanche, il a déjà résidé 24 jours dans son club privé de Floride, et la chaîne CNN a calculé qu'entre cette résidence, ses golfs et ses hôtels, Donald Trump n'a jamais passé plus de 3 jours sans une étape dans une de ses propriétés, une sorte de présidence à domicile.
Frédéric Carbone en direct de Washington, merci.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
L'édito d'Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Aujourd'hui Anthony, vous nous dites que l'Europe du Sud est en état de stress démographique. Ça veut dire quoi ?
C'est simple à comprendre. Un seul chiffre suffit, une Grecque sur 5, née dans les années 70, n'a ou n'aura pas d'enfant. N'en aura jamais. Et le même chiffre d'ailleurs pour une Espagnole, une Italienne, une Portugaise. C'est du jamais vu depuis l'immense dépression démographique de la Première Guerre mondiale il y a un siècle. Or, non seulement le taux de fertilité de l'Europe du Sud est parmi les plus bas du monde, mais en plus la crise a forcé l'émigration de centaines de milliers de jeunes en plein âge fertile vers le nord de l'Europe, vous savez, Allemagne et Grande-Bretagne en tête. Autrement dit, c'est la double peine. Se rester au pays ne font plus d'enfants, ou pour beaucoup moins, et se partir chercher du travail dans un nord de l'Europe plus prospère, eh bien font des enfants, certes, mais pour leur pays d'accueil. Le résultat est déjà tangible. Partout, en Europe du Sud, les maternelles se dépeuplent, surtout dans les petites villes périphériques, et les écoles primaires ferment des classes.
L'Europe du Sud n'est pas la seule concernée. Pourtant, Anthony, l'Allemagne aussi a des problèmes de même nature.
Oui, mais elle se soigne. Elle se soigne vite d'ailleurs. D'abord, l'Allemagne est prospère, ce qui lui a permis d'investir des milliards d'euros en 10 ans dans des crèches, des maternelles et des écoles qui pratiquent la journée continue, comme en France. Ce qui signifie que des solutions concrètes ont été adoptées qui, de plus en plus, permettent aux couples et surtout, évidemment, aux femmes d'avoir une vie professionnelle épanouissante tout en ayant des enfants. La société allemande est en train d'évoluer vers un mieux-disant familial. De plus, l'émigration de dizaines de milliers de jeunes grecs, italiens, espagnols ou portugais, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, a dynamisé la démographie allemande, sans oublier bien sûr le million de réfugiés et migrants qui ont été accueillis entre 2015 et 2016. Résultat, la population allemande ne diminue plus, au contraire, elle augmente. C'est exactement le processus inverse de l'Europe du Sud. Dans les pays du Club Med, hein, vous savez comment on dit, comme on les appelle parfois avec un certain mépris, eh bien ces pays ont connu de redoutables récessions depuis 10 ans, accompagnées de chômage et d'austérité. Bah, l'austérité, ça signifie moins d'avantages pour les familles. Par exemple, lorsque la France dépense 130 euros mensuels en allocation pour un deuxième enfant, eh bien la Grèce ne peut en offrir que 40 euros. De plus, toujours en Grèce, 27% des femmes sont au chômage contre 20% des hommes.
Plus de précarité, plus de chômage, donc les couples hésitent, j'imagine, à faire des enfants.
C'est logique, et mais c'est aussi dramatique. Ça aggrave beaucoup le fossé économique et social qui sépare l'Europe du Sud et celle du Nord. Le dynamisme d'une économie est simplement lié à sa démographie. Je vous explique ça très simplement. Quand un pays est jeune et fait beaucoup d'enfants, eh bien, il investit, il prend des risques et surtout il consomme. Il a 20 ans en somme. Pensez à ce que nous étions, faisions et à quoi nous rêvions.
Lorsque
nous avions 20 ans. À l'inverse, lorsqu'une population vieillit, eh bien, elle épargne, elle consomme peu. La croissance est atone. C'est ce qui se passe avec le Japon. Vous pouvez injecter des centaines de milliards de yens dans l'économie. Le Japon vieillissant ne les dépense pas, il thésaurise.
Alors que faut-il faire, Anthony ? Est-ce qu'il faut faire venir des millions de migrants ?
Ça, c'est ce que craignent, hein, vous savez, les tenants de la théorie paranoïaque du grand remplacement. En fait, le nombre d'étrangers présents en Europe n'a jamais ou n'a pratiquement pas changé depuis les années 30. 7 à 8% de la population, pas plus. L'immigration en Europe n'a jamais été qu'une solution d'appoint et jamais massive. Non. Ce qui est fascinant, c'est que toutes les prévisions des démographes, et donc des théoriciens paranoïaques, eh bien, se sont toujours avérées fausses. Après la guerre de 14, par exemple, ils prévoyaient, ces démographes et ces théoriciens, pour la France, à l'horizon 2000, 20 à 30 millions d'habitants. Nous sommes aujourd'hui 65 millions. En fait, des baisses de natalité, l'Europe en a connu beaucoup, toujours suivies de périodes d'expansion endogène de la population. Ce sont donc des moments de transition avant un monde nouveau. Et bien voilà, nous y sommes. Nous sommes dans ce moment de transition.
Anthony Bélanger, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20. On va parler politique, hein, tout simplement, à 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Le service politique de la rédaction d'Inter est à votre disposition pour toutes vos questions sur la gauche, la droite, le centre, les mouvements qui travaillent encore les intentions de vote. Intervenez, amis auditeurs, partagez avec nous vos impressions de campagne. 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé Telson. Le journal, Sébastien Paour, à suivre.